VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Ouagadougou, 18h à Bangui. Bienvenue dans notre journal d'information. Au Sénégal, verdict dans le procès de Karim Ouad. L'ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad a été condamné pour enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et une forte amende. La défense vient d'annoncer qu'elle se pourvoit en cassation et qu'elle va saisir la Cour suprême. Plus de détails avec Nicolas Pinault.
Cette condamnation est inférieure aux réquisitions du procureur, mais elle reste un coup dur pour les partisans de Karim Ouad. Ouad fils est condamné à payer une amende de 138 milliards de francs CFA et se voit privé de ses droits civiques. Le chef d'accusation de corruption n'a en revanche pas été retenu contre Karim Ouad. Emprisonné depuis avril 2013, l'ancien ministre du ciel et de la terre, comme l'appelaient ses détracteurs, devrait donc rater, sauf miracle, la prochaine présidentielle, alors qu'il a été désigné ce week-end par le bureau du Parti démocratique sénégalais. Karim Ouad devrait à présent se pourvoir en cassation ou espérer une grâce présidentielle. Cette dernière hypothèse est de l'ordre de la chimère, puisqu'on sait que Macky Sall a décidé d'aller jusqu'au bout en matière de bonne gouvernance. Ce verdict a été accueilli dans les pleurs par les partisans du condamné. Abdoulaye Ouad, le père et ancien président du Sénégal, avait fait le déplacement ce lundi matin à Dakar. Cette décision met fin pour le moment à cette affaire judiciaire hors norme.
Le 23 mars 2014, la Guinée déclarait le premier cas confirmé de fièvre hémorragique à virus Ebola. Un an après, le bilan continue de s'alourdir, alors que les experts avaient espéré que l'épidémie serait jugulée. Camille Grosdidier.
Dans son dernier bilan publié lundi, l'Organisation mondiale de la santé parle de plus de 11 800 personnes contaminées par le virus à Ebola et de 3 700 décès en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les trois pays les plus affectés par l'épidémie. Au Libéria, une nouvelle contamination a été détectée dans la capitale, Monrovia, la première en un mois. Une déception pour les autorités qui avaient espéré que le recul de l'épidémie ces dernières semaines permettrait de l'éradiquer d'ici peu. Entre-temps, la Sierra Leone a décidé d'organiser un confinement de toute sa population du 27 au 29 mars pour endiguer le virus à Ebola. En Guinée, on continue de signaler des cas, notamment près de Conakry et dans la région frontalière de la Sierra Leone. Le rôle et l'action de l'OMS ont été critiqués dans cette épidémie, mais impossible pour elle d'intervenir dans un pays tiers sans y avoir été invitée, rappelle-t-on. C'est seulement lorsque l'état d'urgence internationale est déclarée en matière de santé publique qu'une intervention internationale est mise en œuvre, et il aura fallu attendre septembre 2014 pour que soit déclaré l'état d'urgence international.
Décision prévisible en Tunisie, vu les failles qui ont marqué l'attentat contre le musée Bardot à Tunis. Le Premier ministre a limogé 5 hauts responsables de la police. Je vous rappelle que les assaillants ont tué 21 personnes dans l'attaque la plus meurtrière en Tunisie depuis 13 ans. Michel Joseph nous en dit plus sur ces limogeages.
Une décision prise par le Premier ministre après une visite dans le quartier qui a été le théâtre de l'attentat. Les chefs de la police de Tunis et du musée du Bardo, ainsi que 3 autres agents de sécurité, ont payé le prix de défaillances flagrantes, comme l'absence d'agents de sécurité autour du musée, le plus prestigieux de Tunisie, qui plus est situé à proximité du Parlement. Les responsables limogés ont aussitôt été remplacés. 20 touristes étrangers et un policier tunisien ont été tués dans cette attaque revendiquée par le groupe État islamique. Un troisième agresseur identifié est en fuite. Interrogé sur l'avancée des investigations sur les auteurs de cette attaque, le président Essebsi a évoqué pour la première fois un troisième terroriste. Tunis se prépare malgré tout à rouvrir le musée du Bardo demain.
Au Gabon, une manifestation de fonctionnaires en grève et de lycéens du public a été dispersée lundi à Libreville par la police, qui a fait usage de gaz lacrymogène. C'est ce qu'a constaté un correspondant de l'AFP. Avant la dispersion de la manifestation, plusieurs responsables de l'opposition, dont l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, avaient apporté son soutien aux protestataires en se joignant brièvement au cortège. Début février, à l'appel d'une vingtaine de syndicats de la fonction publique, notamment de l'éducation nationale et de la santé, les fonctionnaires sont entrés en grève pour réclamer des revalorisations salariales. Les établissements établissements secondaires et supérieurs sont quasiment à l'arrêt depuis plus d'un mois, faisant planer la menace d'une année blanche pour les élèves gabonais. En République démocratique du Congo, les partis de la majorité au pouvoir ont tenté dimanche, au cours d'une réunion houleuse, d'aplanir de nouvelles dissensions liées à la révision de la Constitution et à la loi électorale selon l'AFP. Et RDC toujours, la Cour suprême de justice dira le 30 mars si elle est régulièrement saisie ou non pour juger une affaire de diffamation concernant l'opposant Vital Kamerhe, poursuivi par une élue de la majorité présidentielle, M. Kamerhe avait accusé Madame Moleka d'avoir été élue en 2011 en fraudant. Enfin, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont signé lundi à Khartoum un accord de principe pour la construction du barrage éthiopien Grande Renaissance, a indiqué un correspondant de l'AFP. L'Égypte, qui dépend du Nil pour s'approvisionner en eau potable et alimenter son secteur agricole, redoutait que le barrage éthiopien n'affecte le débit du fleuve. Le président égyptien a toutefois rappelé qu'il s'agit d'un accord de principe qui doit être complété. L'Égypte a commencé à détourner, l'Éthiopie a commencé à détourner les eaux du Nil bleu en mai 2013 pour construire ce barrage de 6000 mégawatts qui sera le plus grand d'Afrique lorsqu'il sera terminé en 2017.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Dans le reste du monde, la suite de l'actualité, coup d'envoi aujourd'hui de la visite officielle de 3 jours du président afghan à Washington. Ashraf Ghani s'est félicité du formidable partenariat entre les États-Unis et son pays, tout en remerciant les troupes et les contribuables américains pour leur sacrifice au nom de la liberté et de l'espoir. Jacques Aristide.
L'Afghanistan, un pays appauvri, marqué par près de 14 années de guerre, mais au Pentagone en Virginie ce lundi, son nouveau président Ashraf Ghani a promis que le pays cesserait d'être un fardeau pour l'Occident.
We do not now ask what the United States can do for us.
Nous ne demandons plus ce que les États-Unis peuvent faire pour nous, pour paraphraser le président Kennedy. Nous voulons dire ce que l'Afghanistan va faire pour lui-même et pour le monde. Le terrorisme est une menace, c'est le mal. Mais nous, le peuple afghan, sommes prêts à dire la vérité face à la terreur en disant « Non, vous ne pourrez jamais nous accabler, nous obliger à nous soumettre, nous allons vaincre ».
Après sa rencontre aujourd'hui avec les secrétaires d'État John Kerry et la Défense Ashton Carter, Ashraf Ghani et son chef de l'exécutif Abdullah Abdullah seront reçus demain mardi par le président Barack Obama et son numéro 2 Joe Biden. Mercredi, le dirigeant afghan prendra la parole lors d'une réunion conjointe au Congrès. Jeudi, les deux hommes se rendront à New York pour des réunions aux Nations Unies. En haut de l'agenda de cette tournée américaine du président afghan, le retrait des troupes américaines, un retrait qu'Ashraf Ghani souhaite retarder en raison des attaques terroristes perpétrées pratiquement quotidiennement sur le territoire afghan.
En Irak, au moins 8 personnes ont été tuées, une vingtaine blessées lundi dans l'explosion d'une voiture piégée dans un quartier à majorité chiite de Bagdad. C'est ce qu'ont rapporté des sources médicales et de sécurité à l'AFP. Pour le moment, l'attaque n'a pas été revendiquée. Au Yémen, le conflit se durcit et les belligérants continuaient ce lundi de mobiliser leurs troupes en dépit d'un appel du Conseil de sécurité de l'ONU à reconnaître la légitimité du président à préserver l'unité du pays. La milice chiite des Houthis a acheminé de nouveaux renforts vers le sud avec comme objectif la ville d'Aden où s'est retranché le président Abdrabo Mansour Hadi. Sa progression se heurte à la résistance de tribus qui lui sont hostiles selon des sources sécuritaires. Le sénateur du Texas et figure de l'ultra-conservateur Tea Party, Ted Cruz, a officialisé ce lundi, ici aux États-Unis, donc sa candidature pour la présidentielle américaine de 2016, donnant le coup d'envoi dans le camp républicain de la course à la Maison-Blanche. Le conservateur, âgé de 44 ans, est né à Calgary, au Canada, et c'est le premier des premiers grands candidats républicains pressentis à se lancer dans la course à l'investiture de son parti pour 2016, devançant notamment Jeb Bush, candidat officieux, et d'autres figures de la droite américaine. Et dernière petite brève pour finir ce journal. En Israël, Benjamin Netanyahou est assuré d'une majorité claire pour former le prochain gouvernement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans 20 minutes. Le Monde aujourd'hui fait le tour de l'actualité en une demi-heure. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.